Monsieur le maire de Bartrès, mon cher Gérard, mesdames et messieurs les maires du pays de Lourdes, mesdames et messieurs, chers amis, avec ma coéquipière, mon cher François, notre sénateur aux Pyrénéens, avec ma coéquipière Adeline Ayala, ainsi qu'avec nos suppléants d'ailleurs, Marie Assouer et Christophe Jean-Louis, nous sommes très heureux évidemment d'être invités chaque année à Bartrès et de participer avec vous, de partager avec vous ce moment de convivialité. Chaque année, je le rappelle chaque fois, cette fête de Bartrès marque le début des festivités dans notre nouveau canton de Lourdes. Donc c'est toujours la tradition qui est respectée. Et également, il est d'usage chaque fois d'évoquer les problèmes communaux, ainsi que vient de le faire Gérard à l'instant. Pour ce qui me concerne, je ne reviendrai pas sur les affaires locales, parce qu'il n'est pas possible aujourd'hui que nous ignorions ce qui se passe autour de nous. C'est tout à fait impossible. Et à l'instant, eh bien, mes pensées, en ce jour de fête des Pères, mes pensées vont vers un enfant de 3 ans. Un enfant de 3 ans qui se retrouve orphelin et qui ne pourra plus jamais, à l'avenir, fêter la fête des pères aussi bien que la fête des mères. Il n'aura personne à qui s'adresser pour dire bonjour papa et bonjour maman. Cet événement est extrêmement grave parce qu'il met en cause toute une série d'éléments auxquels nous sommes attachés, ne serait-ce qu'au travers de l'identité de ses parents. Ses parents étaient tous les deux policiers. Et c'est la police, en quelque sorte. Ce sont les services de sécurité, la gendarmerie et l'armée, qui sont mis en cause et en question au travers de cet attentat perpétré par un islamiste au nom d'Allah. Tout ceci, c'est un fait avéré, on ne peut pas l'ignorer. Quand on sait que dans la situation chaotique dans laquelle se trouve notre pays, eh bien, aussi bien la police que la gendarmerie que l'armée constituent le dernier rideau fragile entre un maintien de l'ordre minimum et ce qui pourrait évoluer vers une guerre civile, eh bien, on sait quels sont les symboles qui ont été attaqués. Et ça pose, chers amis, même si mon propos est grave, je crois qu'on ne peut pas en faire l'économie, ça pose cette question lancinante de la place de l'islam dans la République. Et je crois que dans les mois qui viennent, et à l'occasion de la prochaine élection présidentielle, c'est les prémices, c'est déjà y entrer, je crois que cette question identitaire va être au cœur de ce débat qui arrive. Ça avait commencé avec les moines de Tillérine, vous en souvenez, qui avaient été égorgés, et là c'était la religion catholique qui était visée. Ça s'est poursuivi avec Mohamed Béra à Toulouse, contre des juifs, contre les militaires français, les parachutistes. Et là c'était la religion juive et l'armée française qui était concernée. Un peu plus tard, ça a été à Paris, Charlie. Et là, c'était la presse qui était concernée, et la liberté d'expression. Et puis après, c'était le Bataclan. Le Bataclan et la jeunesse qui a été frappée, la jeunesse festive de notre pays qui a été frappée. Ce sont tous ces symboles de notre République qui sont attaqués constamment. Nous sommes en guerre, ça a été dit par le Premier ministre, par le Président de la République, et chacun de nous ne peut que constater que nous sommes effectivement en guerre. Donc, la question qui se pose, c'est la question de l'islam dans ce pays. Et je crois qu'on gagnerait beaucoup si nous nous penchions sur notre propre histoire, et si l'histoire était mieux enseignée d'ailleurs dans les lycées et dans les collèges. Parce que si l'on se souvient de ce qui s'est passé dès que la Troisième République est apparue dans le paysage, après 70, en 1875 très exactement, quand la Troisième République a été consolidée dans ses fondements, eh bien les républicains de l'époque ont mené un combat d'une vingtaine d'années qui consistait à séparer la religion. Ça s'est terminé par la grande loi sur la séparation de l'Église et de l'État pour devenir dans une république laïque. Aucun d'entre nous aujourd'hui ne contesterait ce combat qui a été mené à l'époque et qui a abouti à la situation que nous connaissons. Il faut que nous défendions aujourd'hui cette laïcité. Mais souvenons-nous dans quelles conditions ça s'est passé. La violence qui s'est exprimée à cette époque-là. Nous étions dans un pays qui est toujours à dominante catholique. Et souvenez-vous qu'il a été procédé à cette époque-là pour affirmer la laïcité de la République. Eh bien, on a procédé à des expulsions, des congrégations ont été interdites. Et on estime que de 1875 à 1880, à peine un peu plus tard, eh bien, c'est presque 60 000 jésuites, congréganistes, etc., frères des écoles, frères de Plo Hermel, on a connu ça à Lourdes, pour ceux d'entre eux qui ont été à l'école Saint-Joseph. C'est les écoles, il y a 3 000 écoles qui ont été fermées, parce qu'à cette époque-là, c'était essentiellement des congrégations religieuses qui assumaient l'éducation de nos enfants. Donc c'est ce combat qui a été d'une violence extrême qui a eu lieu. Et donc, il en est résulté ultérieurement. Après la guerre de 14, les choses se sont apaisées. Et la guerre, il n'y a plus de guerre entre les anticléricaux et les cléricaux. Les choses se sont apaisées. Mais si on s'inspire de ce que la religion dominante de ce pays a subi au travers de ses expulsions, de ses spoliations, etc., eh bien, aujourd'hui, tout simplement, il faut que la République, aujourd'hui, si on ne veut pas qu'elle sombre, eh bien, applique avec fermeté, que le bras ne tremble pas, et que les imams qui prêchent la haine, les mosquées qui colportent ces propos de haine, que les mosquées soient fermées, que les imams qui s'expriment dans d'autres langues que la nôtre soient expulsés. On ne peut plus tolérer la situation dans laquelle nous nous trouvons. Mon propos est grave, mais je crois que la situation est très grave, et j'avais ça sur le cœur. Je pense à cet enfant précisément, qui sera un orphelin jusqu'à la fin de sa vie, à cause de fous de Dieu, qui au nom d'Allah pratiquent les attentats que nous connaissons et que nous subissons. Cela étant, pour changer de registre, et sans vouloir allonger exagérément le propos, nous sommes concernés aussi par ce qu'on appelle la réforme territoriale. Alors, je n'évoquerai pas ici, par souci d'esthétique, si vous voulez, eh bien, je n'évoquerai pas un sujet qui fait débat et qui n'est pas clos encore, qui concerne la réforme des communes et des intercommunalités. Parce que je n'aime pas m'exprimer dans un débat contradictoire au micro si ceux qui ne partagent pas mes idées ne peuvent pas s'exprimer. Donc je n'évoquerai pas cet aspect qui est en cours. À partir de demain, je retrouverai ma liberté de parole pour dire ce que je pense sur ce qui se passe. Mais je ne veux pas prendre en otage une fête communale pour aborder ce sujet. Il y a un sujet sur la réforme territoriale dont je veux parler, c'est la région. Et là, je crois qu'on devrait retrouver tous un consensus autour de ce propos, parce que ce qui est en jeu actuellement, c'est la dénomination de notre région. Vous avez tous suivi ces consultations qui ont eu lieu et qui mettent en avant une nomination de cette région abracadabrantesque là, qui va jusqu'au Rhône, pour laquelle nous n'avons jamais été consultés. Elle existe, cette région. Et le débat, c'est de savoir comment la région va s'appeler. Nous étions la région Midi-Pyrénées. Et il y aurait un risque à ce que cette grande région ne porte plus le nom Pyrénées. Or, les Pyrénées, c'est notre identité. C'est notre identité. Le nom d'Occitanie, c'est une vision universitaire. Ce sont des chercheurs, des beaux penseurs qui fantasment autour de cette notion d'Occitanie. Mais si l'on se souvient que l'activité touristique est la principale activité de notre département, et que l'on songe à toutes ces populations du nord de l'Europe ou même de France qui cherchent des destinations vacances, eh bien, les Pyrénées, ça signifie quelque chose, la géographie. La Méditerranée, ça signifie quelque chose. On va passer ses vacances dans les Pyrénées, on va passer ses vacances dans la Méditerranée, on ne va pas passer ses vacances en Occitanie. C'est un concept farfelu aujourd'hui, pour nous, qui ne signifie plus rien. Donc là, il faut effectivement livrer un combat que nous avons livré, comme on l'a pu, au niveau qui est le nôtre, au niveau du Conseil général. La commission permanente a décidé à l'unanimité de se prononcer en faveur, en priorité, du mot Pyrénées. Et puis avec l'adjonction peut-être de Méditerranée ou l'adjonction de Languedoc, peut-être. Ce n'est pas notre affaire, c'est l'affaire de l'autre région. Mais il est impératif que le mot Pyrénées, c'est vital pour nous. Sinon, ça sera une catastrophe extraordinaire. Donc le conseil départemental s'est exprimé. J'ai eu l'honneur aussi de déposer une motion à ce sujet pour la défense du mot Pyrénées qui a été adoptée par mes collègues du conseil général. Eh bien, il faut que tous ceux qui nous représentent au conseil régional s'expriment. Et il faut voir Mme Carole Delgas, ceux qui ont une proximité plus grande que la mienne, avec la majorité socialiste de la région, doivent monter au créneau. Et les femmes, je suis sûr qu'avec François, il est sur la même longueur d'onde, et avec tous les élus qui sont ici, il faut absolument que nous nous battions pour le mot Pyrénées. Voilà, c'était la deuxième idée que je voulais engager et développer à l'occasion de cette rencontre. Mon propos a été un peu grave, j'en suis conscient, mais c'est aussi un propos identitaire. La défense de la région, le mot Pyrénées, c'est un combat identitaire. Tous les combats, tous ceux dont j'ai parlé, ce sont des combats identitaires. Et il faut que nous défendions notre identité, fût-elle nationale et fût-elle régionale, au travers du mot Pyrénées. Voilà, alors, pour conclure, je dirais que, si dans ce paysage très sombre et très lugubre, il y a aujourd'hui un coin de ciel bleu au-dessus de nos têtes. C'est ici, à Bartrès, à l'occasion de cette fête communale. Et je vous souhaite à toutes et à tous une excellente fête. Merci.